OK, on va terminer, on va commencer notre 19e leçon. Et ce soir, on va terminer ce qu'on avait débuté la semaine dernière, le devoir des chrétiens de mortifier les péchés sexuels. On avait vu qu'il y avait des versets, un verset en particulier, Romains 8, 13, qui nous rappelait que Dieu nous commande de mortifier le péché en général. Je rappelle le verset, Romains 8, 13, « En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » Et il y avait l'autre idée aussi de mortifier les péchés sexuels en particulier. Colossiens chapitre 3, verset 5. « Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice qui est une idolâtrie. » Donc, je fais remarquer que sur les cinq péchés mentionnés, il y en a quatre qui sont de nature sexuelle. Donc, on avait développé un peu la semaine dernière le devoir de mortifier le péché en général à partir de Romains 8. On avait regardé un petit peu les différentes facettes de tout cela. Et on avait commencé à regarder aussi le devoir de mortifier les péchés sexuels, en particulier de Colossiens 3, 5. On avait vu que sur les cinq péchés, fornication, donc l'impureté, c'est les péchés d'action. Puis les passions et les mauvais désirs sont des péchés commis dans la pensée. Donc, autrement dit, c'est pas juste les péchés que tu commets dans les actions, mais aussi les péchés que tu commets dans ta tête, dans ta pensée. Donc, il y avait des péchés d'action et des péchés sexuels de la pensée. On était rendu là. Et il nous restait à voir quatre moyens spécifiques pour obtenir la victoire dans le domaine de combattre les péchés de nature sexuelle. Le premier moyen spécifique, c'est d'avoir un fondement. Le chrétien doit chercher à mortifier ses péchés sexuels de façon constante et continuelle. Quand on dit un fondement, ça veut dire que tu ne fais pas juste ça une fois de temps en temps. C'est que c'est quelque chose qu'il faut que tu pratiques à longueur d'année. Que ça soit constant, il faut que ça soit continuel. Donc, c'est un moyen. Le chrétien doit éviter à tout prix deux erreurs fréquentes et qui sont fatales aussi spirituellement. La première, c'est de prendre le péché à la légère. Les gens, des fois, commettent certains péchés, puis à cause de l'ambiance générale qui règne autour de nous, il vient un temps qu'on considère même plus ces péchés-là comme étant des péchés graves. Et aussi, autre tendance ou erreur, c'est chercher à justifier ou à rationaliser sa pratique. Et ça, on le voit de plus en plus. Quand je vous ai déjà parlé, j'ai entendu à télé une fois sur Internet une vidéo d'une femme qui était lesbienne, chrétienne, essayer de rationaliser son péché. Alors, ou tu le prends à la légère, ou tu cherches à le justifier en disant « Ah, ben ça, c'était dans le temps, avant Jésus-Christ. » Et il cherche toutes sortes de façons de se justifier. Donc, le premier moyen, c'est d'avoir un fondement. Chercher à mortifier ses péchés sexuels de façon constante et continuelle. Le deuxième, c'est par une foi bien informée sur les implications de notre union avec Christ. Alors, le document que je vous ai remis, Union avec Christ, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, il y en a qui m'ont dit que c'était du steak à lire. C'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à lire, mais c'est important si tu comprends vraiment bien la doctrine de ce que c'est d'être uni avec Jésus-Christ. On fait partie de lui, il fait partie de nous. À quelque part, ça nous aide à lutter correctement. Alors, bien avoir une foi bien informée sur les implications de notre union avec Christ. Alors, on va regarder Romains 6, on en parle surtout dans Romains 6, les versets 1 à 16. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ne savez-vous pas que tous nous avons été baptisés en Jésus-Christ? Nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si, lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, et que le corps du péché soit détruit, et que nous ne soyons plus asservis au péché. Je me souviens d'avoir déjà lu que j'avais fait une étude sur Romains. Romains 6:6, on dit que c'est un verset d'une telle profondeur qu'il faut comprendre que quand on dit qu'on est mort en Christ, puis qu'on est ressuscité avec lui, qu'on a été, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, et que notre corps du péché a été détruit, et que nous ne sommes plus asservis au péché, un auteur disait que c'était un des versets les plus profonds des Écritures. De comprendre qu'on est mort avec Christ, en Christ, avec lui, enseveli avec lui. Donc, le péché, comme ça dit, nous ne soyons plus asservis au péché. Quelqu'un de mort n'est pas asservi au péché. Il faut réaliser qu'en Christ, on est mort en lui. Verset 7, « Car celui qui est mort est affranchi du péché. » Verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que si nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. Vous aussi, considérez-vous comme mort au péché, mais vivant à Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherons-nous donc parce que nous ne sommes point sous la loi mais sous la grâce? Nullement. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Un verset qui est très mal compris, très utilisé par la théologie moderne, quand ça dit le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes point sous la loi mais sous la grâce, c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce verset-là. Aujourd'hui, c'est utilisé pour justifier qu'on n'est plus sous la loi. Autrement dit, que la loi, le décalogue, n'a plus de pouvoir sur nous dans le sens de nous donner une façon de vivre, une règle de vie. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Ça fait partie de la théologie dispensationaliste. Et souvent, le premier verset qu'ils vont vous sortir, c'est ce verset-là. Et je me souviens d'un pasteur américain qui a voulu devenir assistant d'un autre pasteur dans une église. Et lui a dit, « Tant que tu ne comprendras pas Romains 6:14 comme il faut, je ne veux pas que tu deviennes mon assistant. » De là, lui montrer l'importance de ce verset-là. N'êtes pas sous la loi, sous la grâce. Ce n'est pas un verset qu'on doit interpréter comme étant les dispensations, comme les dispensationalistes l'utilisent souvent. Alors, on ne rentrera pas dans les détails de ça souvent, mais c'est important de réaliser qu'il y a des versets comme ça qui sont très importants. On était rendu au verset 14. Et quoi donc pécherons-nous donc parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. On a aussi Galates, chapitre 2, versets 20 et 21. Et on parle personnellement, on dit « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain. J'ai été crucifié avec Christ, et Christ, c'est Christ qui vit en nous. Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Le fameux passage où on parle du sceptre, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Jean 15, versets 1 à 8. Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit. Et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cèpe, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Alors, pour approfondir la compréhension, je vous avais remis le document « L'union avec Christ » qui vient du livre de théologie Wayne Grudem. Je vous conseille de le lire et de le relire et de le re-relire, parce que c'est un document qui nous fait voir les différentes facettes de notre union avec Christ, et la compréhension de cette doctrine-là a un impact direct sur notre façon dont on va combattre le péché. Si on sent que Christ est en nous, il y a une force extraordinaire, il y a une puissance extraordinaire qui est en nous pour nous aider à combattre le péché. Alors, je vous recommande de le relire une autre fois. Et parce qu'il y a différents éléments à l'intérieur de ça. Christ est en moi, je suis en Christ, et tous les éléments, je suis avec Christ, je suis... Et il y a quatre éléments, si je me souviens bien. C'est vraiment important d'essayer de se les rentrer dans la tête bien comme il faut. Et d'essayer d'y méditer. Comprendre ce que ça veut dire. Le troisième moyen, c'est à part un évitement volontaire, juste et résolu de toute chose ou de toute personne qui vous tenterait et vous inciterait à céder à des péchés sexuels. On le reprend? Pour un évitement volontaire, ça veut dire qu'il faut que tu fasses exprès pour t'éloigner soit des occasions, soit des personnes qui peuvent être pour toi un moyen de t'emmener à commettre des péchés sexuels. On va prendre des exemples très concrets dans les Écritures. Les avertissements de Salomon, par exemple, dans Proverbes chapitre 5, versets 3 à 8. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais ce qui en provient est amer, comme de l'absinthe, et perçant, comme une épée à deux tranchants. Ses pieds conduisent à la mort. Ses démarches aboutissent au sépulcre. Elle ne considère pas le chemin de la vie. Ses voies s'égarent, elle ne sait où. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi, et ne vous détournez point des paroles de ma bouche. Éloigne ton chemin d'elle, et n'approche point de l'entrée de sa maison. T'es en train de parler à quelqu'un qui... L'étrangère, c'est vraiment d'aller... Un homme marié qui irait auprès d'une autre femme, ou un homme non marié qui va aller coucher avec n'importe qui. Éloigne ton chemin d'elle et ne t'approche point de l'entrée de sa maison, parce qu'il dit que ses voies mènent au sépulcre. Les péchés sexuels sont dangereux parce qu'ils font des hommes des esclaves et ils t'emmènent dans des voies très dangereuses. On a le fameux passage aussi du Proverbe chapitre 7, versets 6 à 27, où on voit un jeune homme qui n'est pas très prudent et il s'en va, il rencontre une prostituée, puis là, elle commence à y péter de la broue, comme on dit, et il la suit comme un bœuf qui s'en va à la boucherie. Et les Écritures parlent de ce jeune homme-là. Quand on dit c'est l'éloignement volontaire, juste et résolu, ça veut dire qu'il faut que tu fasses très attention qui tu fréquentes, puis les endroits où tu vas, parce que c'est les endroits où tu vas, ce qui peuvent t'emmener là, il faut que tu t'éloignes de ça comme la peste. Romains, Proverbes chapitre 7, versets 6 à 27. « Comme je regardais par la fenêtre de ma maison à travers mes treillis, je remarquai parmi les insensés et je considérai parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu de sens, qui passait par la rue au coin où se tenait une de ses femmes et qui suivait le chemin de sa maison. Sur le soir, à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure, et voici, une femme vint au-devant de lui, parée en courtisane et pleine de ruses. Elle était bruyante et sans retenue, et ses pieds ne demeuraient point dans sa maison. Tantôt dans les rues, tantôt dans les places, elle épiait à chaque coin. Elle le prit et l'embrassa, et d'un visage effronté, lui dit, « Je devais un sacrifice de prospérité. Aujourd'hui, j'ai acquitté mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher avec empressement, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de tapis, d'étoffes aux couleurs diverses en fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloas et de cinnamone. Viens, enivrons-nous de délices jusqu'au matin. Réjouissons-nous dans les plaisirs, car mon mari n'est pas à la maison. Il est allé loin en voyage. Il a pris avec lui un sac d'argent. Il ne retournera pas à sa maison jusqu'à la nouvelle lune. Elle l'entraîna à force de paroles et le fit tomber par la flatterie de ses lèvres. Il s'en alla aussitôt après elle, comme un bœuf s'en va à la boucherie et comme un fou qu'on lit pour être châtié, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme un oiseau qui se précipite vers le lacet, ne cherchant pas qu'il est tendu contre sa vie. Maintenant, mes enfants, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne point vers les voies de cette femme et qu'elle ne te fasse point égarer dans ses sentiers, car elle en a fait tomber plusieurs, blessés à mort, et grand est le nombre de ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du sépulcre. Il descend aux demeures de la mort. T'es peurant, hein?
Oui.
T'es en train de dire que si tu suis tes voies pour t'aller dans la sexualité non biblique, c'est extrêmement dangereux. Alors, quand un des moyens pour éviter ça, c'est comme il dit, l'évitement volontaire. Fais attention, tu te mets deux pieds, autrement dit. Un gars ne se tiendra pas d'un bordel s'il ne veut pas aller coucher avec les femmes des autres. Hein? Ben, il ne se tiendra pas dans les hôtels des trous, qu'on appelle, là, s'il ne veut pas tomber dans le péché. On le sait d'instinct quand on fait quelque chose qui risque de nous faire tomber. C'est à nous de prendre les moyens. Comme le Seigneur l'a dit, si ton œil droit, arrache-le. Le moyen que le Seigneur nous donne, c'est violent, hein? Ton œil, arrache-le, c'est ta main, coupe-la. Tu sais, les mots que tu lis sont drastiques. Il faut faire ça. La quatrième moyen, c'est par la garde jalouse des accès à l'âme par les sens. On a les yeux et on a les oreilles. L'exemple de Job. Dans Job, verset, chapitre 31, verset 1, il dit... Job, il dit, « J'ai fait alliance avec mes yeux, et comment eussé-je arrêté mes regards sur une vierge? » Autrement dit, Job est en train de dire qu'il faisait très attention de ne pas poser ses regards sur une vierge. C'est pas qu'on peut pas se promener puis devenir aveugle du jour au lendemain, mais poser tes regards, ça veut dire que là, t'atterris, comme on dit. Tu restes là, tu nourris ta pensée. Il lui dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Autrement dit, quand on se rend compte qu'on est porté à ça, ben, faut pas faire exprès pour se mettre les yeux à des endroits et insister. Parce que, comme les Écritures nous le disent dans Jacques, il y a un lien qui part de la pensée, qui se dirige tranquillement vers l'action, tout le temps. Tout le temps comme ça que ça fonctionne. La chute de David, un autre bel exemple. Dans 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 4. L'an d'après, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, et avec lui ses serviteurs et tout Israël. Et ils ravagèrent les pays, ils ravagèrent le pays des enfants d'Ammon et assiégèrent Rabba. Mais David demeura à Jérusalem. Et il arriva sur le soir que David se leva de dessus son lit. Et comme il se promenait sur la plateforme du palais royal, il vit de cette plateforme une femme qui se baignait. Et cette dame était fort belle à voir. Et David envoya demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des messagers et l'enleva. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Or, elle était nettoyée de sa souillure, puis s'en retourna dans sa maison. Or, cette femme conçut et elle l'envoya annoncé à David en lui disant, je suis enceinte. Voyez-vous, il n'était pas à son endroit où il était supposé d'être. Il était supposé aller à la guerre avec Joab, le général. Il n'était pas à la place où il devait être. En plus, il se rend sur le toit, il voit une femme tout nue, puis au lieu de dire, ben là, il nourrit son affaire, il nourrit son affaire, il tombe. Et quelles sont les conséquences? Vous souvenez-vous des conséquences que ça a eues, ces affaires-là? Le bébé est mort et ses quatre fils sont morts des suites indirectes de ça. Alors, c'est très grave. La chute de Samson, Juges 14, verset 1 à 3. Or, Samson descendit à Timna et il vit une femme d'entre les filles des Philistins. Et étant remonté en sa maison, il déclara à son père et à sa mère et leur dit, j'ai vu à Timna une femme d'entre les filles des Philistins. Maintenant, prenez-les afin qu'elle soit ma femme. Et son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout ton peuple pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins circoncis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle plaît à mes yeux. Quand on parle que nos yeux puis nos oreilles sont les entrées, c'est des accès à l'âme, les oreilles. Et si tu ne fais pas attention comment tu nourris ça, tes accès, là, mais tu vas tomber. L'ordre du Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 30. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Que si ton œil droit t'a fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps étant jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse, que tout ton corps ait été jeté dans la géhenne. Il ne vaut pas que le dos de la cuillère ici, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, n'oublions jamais le rôle des yeux et des oreilles pour l'incitation au péché. Internet et sa pornographie, les émissions de télévision, le cinéma, les médias, la publicité et la musique moderne incitent au péché. Quand on dit de surveiller nos entrées à l'âme, c'est souvent par les yeux, par les oreilles. Et si on ne se surveille pas, première nouvelle qu'on sait, on glisse. Parce que, je l'ai déjà dit, Internet, un tiers d'Internet, il y a des milliards de pages sur Internet. Quand on parle d'une page Internet, on sait tout, c'est quoi une page? Il y en a pas des millions, des milliards. Et un tiers de ces milliards-là, c'est de la pornographie. Puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui sont dominés par ces choses-là et qui font énormément de péchés à cause de tout ça. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 7. Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soit même nommé parmi vous, comme il convient des saints, ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ou impudique, ou avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. N'ayez donc point de part avec eux. Moi, il y a quelque chose que je remarque dans ce verset-là, que pourtant, des fois, on est porté à faire des grosses faces plates grasses. Des fois, vous remarquez qu'on aime ça. C'est notre chair. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soit même nommé parmi vous. La Bible nous commande de faire attention à la manière dont on parle. Et quand on regarde dans c'est sûr que les non-chrétiens ils ont la bouche sale, ben sale, comme on dit. Mais j'ai souvent entendu des faces grasses, pas mal grasses, je dirais, dans la bouche des chrétiens. Puis on a peur d'y reprendre, et c'est ça qui est pire. On devrait de reprendre un frère ou une sœur qui tombe dans ce style de péché-là. Parce qu'en péchant, elle ou lui nous fait pécher, nous aussi. On participe à son péché. Trois applications. On a le devoir, l'obligation absolue de vivre conformément aux privilèges reçus par le salut en Jésus-Christ. Donc, pour cela, on se doit de mortifier le péché en général, de Romains 8, 13, et aussi parce que c'est une question de vie ou de mort. Mais on se doit de le faire par le bon moyen, par le moyen du Saint-Esprit, pas essayer de faire nos guerres par nous-mêmes, parce qu'on va être, on va être perdant, ça c'est sûr. Deuxième application, on se doit aussi de mortifier les péchés sexuels qu'on a vus dans Colossiens 3, 5. Donc, les péchés, mortifier les péchés en général, mortifier les péchés sexuels en particulier. Et troisième et dernière application, soyons sages en mettant en pratique les conseils et les avertissements des Saintes Écritures et du Seigneur Jésus-Christ lui-même, en surveillant de façon très stricte les portes d'accès à notre âme, nos yeux, nos oreilles, nos sens et tous nos discours. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.